Ce soir, à quel maître à penser se vouer ? Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du Grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Et c'est un club un peu particulier que nous vous convions aujourd'hui dans le cadre de la journée spéciale que France Culture vous propose depuis ce matin. La France est-elle toujours la patrie des intellectuels ? Journée en lien direct avec la publication aux éditions du Seuil de La vie intellectuelle en France. Un panorama historique ambitieux puisque couvrant la période allant de la Révolution à nos jours. Alors dans ce cadre, nous aurions pu revenir aux éternelles questions. Qu'est-ce qu'un intellectuel ? À quoi sert-il ? S'agit-il d'une espèce en voie d'extinction ? Mais ce soir, nous avons plutôt fait le choix de privilégier des penseurs singuliers plutôt que de nous pencher sur l'état de santé général de la pensée. Alors à chaque membre du club, nous avons donc demandé de choisir deux auteurs, l'un contemporain, l'autre pas, et de nous dire en quoi ils éclairent le monde dans lequel nous vivons. Alors ont-ils privilégié les idées, le charisme, la méthode ? Va-t-on voir ressurgir dans cette sélection forcément arbitraire des penseurs oubliés ? À quel maître à penser se vouer ? C'est donc la question que nous avons posée cette semaine à Brice Couturier. Bonsoir Brice.
Bonsoir cher ami.
Journaliste, on vous retrouve tous les jours de lundi au vendredi à 11h50 sur France Culture pour votre tour du monde des idées. Pour converser avec vous, Ludivine Bantigny, bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rouen. C'est vous qui vous êtes occupé du chapitre flux et reflux de l'idée révolutionnaire dans la vie intellectuelle en France, dans le deuxième volume de cette somme qui est donc publiée au Seuil. Notre troisième membre du club, même si c'est sa première apparition ce soir, c'est Sylvain Kahn. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Hervé.
Les auditeurs connaissent bien puisque vous présentiez jusqu'à la saison dernière encore Planète Terre. Vous êtes historien et géographe, professeur à Sciences Po où vous vous occupez du master Affaires européennes, on verra si
je
l'Europe...
Je ne m'occupe pas tout seul.
Ah bah heureusement.
J'y enseigne la géopolitique de l'Europe.
C'est déjà pas mal. On verra justement si l'Europe revient dans vos choix. Et puis notre quatrième invité n'a pas encore sa carte de membre du club.
C'est payant.
C'est Julien Lamont. Oui, c'est payant. Et puis voilà, il faut passer un certain nombre d'examens. C'est pour ça que c'est peut-être un petit peu prématuré pour vous d'en faire partie. Julien Lamont, vous êtes sociologue. Vous êtes conseiller scientifique de l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Donc, si on vous a convié, c'est parce que vous publiez ces jours-ci et on trouvait que ça faisait écho finalement. Même si ce n'est pas du tout la même façon d'aborder la question intellectuelle, mais que ça faisait quoi cette publication du Seuil. Là, vous, c'est au PUF, vous publiez 100 penseurs de la société. Ce sont des petites fiches de vulgarisation qui présentent voilà, donc 100 auteurs. Je n'ai pas vérifié d'ailleurs s'il y en avait 100 précisément. Mais
absolument, ça c'est la seule certitude.
Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'en éliminer ou au contraire d'arriver jusqu'à 100 ?
Ah non, la difficulté c'était l'élimination. Là. Parce qu'après on se fait gronder, on n'a pas mis assez de femmes, pas assez de vieux, pas assez de jeunes, pas assez de chauves, pas assez de libéraux, pas assez de gens de gauche. Mais au total, ça fait un petit patchwork, un petit panthéon assez personnel, je l'avoue.
Alors nous, on a notre petit patchwork, il est encore plus petit à vous proposer.
Je crois que le fait central, c'est effectivement la difficulté tout à fait particulière des Français à s'adapter à ce monde mondialisé, dont les règles du jeu vont directement contre tout ce qui a fait leur histoire.
Alors quand on parle de la liberté des femmes de rester au foyer ou d'aller travailler, c'est une belle liberté en effet. C'est pas une liberté du tout, vous avez la liberté de dépendre de votre mari, vous n'êtes pas payé.
Dans, si je puis dire, ma philosophie, il ne faut pas se donner des objectifs qui sont en tant que tels inaccessibles parce que contraires à la nature à la fois des hommes et des sociétés.
Je tiens beaucoup à cette idée de socle social européen passant par des minima sociaux et environnementaux transversaux, transnationaux.
Bon, on va commencer par un petit quiz. Qui autour de cette table est capable de me dire quels sont les quatre penseurs, les quatre intellectuels que nous venons d'entendre ? Personne, manifestement.
Christine Delphi.
Alors, il y a Christine Delphi. Bah oui, mais forcément, vous allez reconnaître ceux.
Et Jean-Marc Gauchet, il y avait Aron.
Et Jean-Marc Ferry.
Voilà, donc ça en fait 4 sur les 8 que vous avez choisis au total. Alors je vais faire déjà une petite présentation de chacun des auteurs que vous avez choisis, puis après on va essayer d'en parler plus ou moins longuement entre nous tous. Brice Couturier, vous avez fait le choix d'Alexis de Tocqueville et Marcel Gauchet. Sylvain Kahn, Anna Arendt et Jean-Marc Ferry, qui est sans doute pas le plus connu de la liste du soir. Julien Damon, Raymond Aron et Michael Sandel. Et Ludivine Bantini, Walter Benjamin et Christine...
Walter Benjamin. C'est un Allemand, pas un Anglais.
Monsieur Pardonnez-moi. Oh là là, ça y est, je me fais reprendre tout de suite. Et Christine Delphi. Ça vous convient, ça, pour la prononciation, Ludivine Bantini? Bon, peut-être, on va faire déjà comme dans les procès d'assises. Est-ce que parmi les 8 noms cités, il y en a certains que vous récusez parce que vous considérez qu'ils n'ont rien à faire dans la liste des penseurs qui aident à comprendre le monde aujourd'hui? Et je me tourne, en fait, les auditrices et les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais précisément vers Ludivine Bantini, parce qu'à l'évocation du nom de Marcel Gauchet, j'imagine que ce n'est pas un nom qui avait des chances de se retrouver dans votre liste.
Non, parce que je suis vraiment en radical désaccord avec sa pensée, mais c'est un penseur du contemporain, et en soi, il faut travailler sur sa pensée, il faut l'analyser, il faut la commenter précisément.
Donc vous diriez...
Alors lui, en revanche, ouais. il dit à certaines occasions, Marcel Gauchet, qu'il n'est pas un intellectuel, qu'il est un observateur neutre de la société. Ça, je pense qu'il faudrait aller plus avant pour récuser au moins cette idée d'une neutralité, d'un sage, un peu à la manière d'une pitié, qui délivrerait une vérité transcendantale, pour reprendre une formule qu'il apprécie.
Bon, ça, il y a aussi beaucoup de penseurs qui, justement, disent qu'ils ne sont pas des intellectuels. On ne sait pas très bien si c'est de la fausse modestie ou si c'est une erreur d'appréciation.
Non, c'est une erreur. Marcel Gauchet dit précisément qu'il récuse
l'appellation d'intellectuel. Alors, Brice, vous avez choisi Marcel Gauchet.
Moi, je vais le défendre, puisqu'il n'est pas là. Marcel Gauchet ne dit pas qu'il n'est pas un intellectuel. Il dit que la référence à l'intellectuel comme personnage historique de notre société est quelque chose aujourd'hui d'outrecuidant, et qu'il ne veut pas, endosser ce rôle-là. Il pense simplement que le personnage de l'intellectuel, c'est quelque chose de dépassé aujourd'hui. Il ne dit pas qu'il n'en est pas. Il dit que les autres qui prétendent l'être sont des imposteurs, c'est ça la différence. Or lui, il l'est, bien entendu.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous l'avez fait figurer dans votre courte liste,
non.
Brice Couturier?
Moi, j'ai fait figurer Gauchet dans ma liste parce que je pense que c'est vraiment l'intellectuel majeur du moment, parce que c'est à la fois quelqu'un qui est un historien des idées, un philosophe, un anthropologue, tout ça à la fois. C'est un de ces esprits universels comme on en a de temps en temps en France. Je pense à Hippolyte Taine, par exemple, ou à Raymond Aron, qui était capable de parler des relations internationales, mais ça, je laisse Julien Damon en parler mieux que moi. Ces esprits absolument universels qu'on a de temps en temps, encore une fois en France, qui ne sont pas des spécialistes de l'histoire romaine ou de la linguistique, mais qui sont capables de mettre en question l'actualité que nous traversons à partir d'angles multiples de réflexion. Et Gauchet est ce personnage-là. Il a tout entre les mains pour penser le contemporain. Par ailleurs, contrairement à ce que lui reproche Ludovine Bantini, c'est quelqu'un qui connaît très bien la société française contemporaine, qui s'appuie sur une observation très concrète des réalités. Et en cela, il est absolument le penseur majeur du moment.
Alors juste pour qu'on comprenne l'allusion que je faisais en me tournant vers vous tout à l'heure, Ludivine Bantini, il faut rappeler ce qui s'est passé en 2014. Marcel Gauchet qui est invité pour la leçon inaugurale des rendez-vous de l'histoire à Blois, rendez-vous consacré aux rebelles. Il y a eu un appel au boycott qui a été lancé à l'époque pour dire, bah voilà, non, Marcel Gauchet n'est pas légitime, en tout cas pour ouvrir ces rencontres de l'histoire de Blois. Et vous aviez, voilà, on va dire, soutenu
Non, vous n'avez pas soutenu
cette initiative.
Absolument
bon, enfin,
pas.
Cela dit, vous
avez trouvé indécent cette invitation.
Juste pour resituer, en tout cas.
Je peux tout à fait m'expliquer.
C'était
plus
juste pour resituer.
Si on m'en donne la possibilité.
Je voudrais surtout, pour ne pas refaire le débat de l'époque, en tout cas que vous peut-être nous disiez en quoi, finalement, la pensée de Marcel Gauchet vous déplaît.
Enfin, je sais pas si... Oui, non, mais pour ma part, à la suite d'ailleurs de Brice Couturier, je ne récuse pas sa stature d'intellectuel, bien au contraire. C'est un penseur important, certes, mais c'est un penseur qui n'est pas, contrairement à l'image qu'il se donne et dont il est doté, qui n'est pas un penseur de gauche. Bon, ça c'est une première chose. Pourquoi ? Parce que, on ne va pas commencer à s'interrompre, on va développer un peu.
Essayons de garder un aspect convivial à cette discussion, voilà. Coin du feu.
Donc, Non, mais c'est intéressant qu'il soit justement toujours considéré comme, disons, le représentant d'une gauche intellectuelle modérée, social-démocrate. Alors que, mais il faudrait lui consacrer toute une émission, et d'ailleurs en sa présence, ça serait beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, et beaucoup plus stimulant. Mais il représente le conservatisme de la tradition, hein, d'une forme d'autorité, alors, non pas qu'il ne connaisse pas la société française, mais le social n'est pas du tout un objet de réflexion chez Marcel Gauchet. Tout ce qui pourrait représenter à ses yeux les mouvements sociaux, évidemment les luttes sociales, c'est quelque chose qu'il dénigre de manière systématique. Et lui, son ambition, c'est de faire ce qu'il appelle une anthropologie transcendantale. C'est-à-dire qu'il veut parler de l'individu avec un grand I, contemporain avec un grand C également, donc l'individu à majuscule, mais déconnecté justement de ses rapports sociaux. Voilà. Bon, mais c'est un débat qu'on peut avoir plus précisément entre le matérialisme et l'idéalisme. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la neutralité prônée par Marcel Gauchet doit être absolument déniée.
Sylvain Kahn, vous qui regardez beaucoup du côté de l'Europe, est-ce que vous diriez que Marcel Gauchet est emblématique, disons, d'un état de la pensée intellectuelle aujourd'hui en Europe ?
En Europe, non. En France, oui. Justement, ce que j'avais envie de dire à Brice Couturier, qui pense que Marcel Gauchet est un penseur universel, c'est que je trouve que Marcel Gauchet, en tous les cas, ces 10 dernières années, je le trouve très français. Voilà, il me paraît très, 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 très ancré en France.
C'est ce que j'ai dit, hein, comparant Athènes. Hein.
Oui, oui, mais c'est pour ça que je trouve que le caractériser comme un penseur universel ou universaliste. Autant pour Taine, c'est quelque chose, autant pour Hippolyte Taine, hein, donc à la fin du 19e siècle, c'est un terme, je crois, ou un qualificatif qui pouvait coller parce que on était alors dans l'époque où des grands intellectuels, qu'on soit ou non d'accord avec eux, s'ancraient, si j'ose dire, dans un pays. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le nationalisme méthodologique est quelque chose qui se voit, qui saute aux yeux quand il advient et qui, non pas disqualifie une pensée, mais qui, d'une certaine manière, la provincialise. Et pour moi, Marcel Gauchet, je dirais, est quand même très empreint d'un nationalisme méthodologique. En l'occurrence, il analyse les choses, en s'en rendant compte ou non, de son point de vue d'intellectuel français. Et la deuxième chose que je voudrais dire très rapidement, Hervé Gardette, c'est que je pense que Marcel Gauchet est de moins en moins un intellectuel, ou en tout cas de moins en moins un penseur. Moi, pour ma part, je pense qu'il l'a été jusqu'à il y a 10 ou 15 ans et que depuis, il est beaucoup quelqu'un qui intervient dans les médias comme un très bon journaliste. Et je trouve par exemple que son dernier bouquin, qui était un essai d'ailleurs, qui n'est plus un livre d'universitaire, qui n'est plus un livre de penseur, eh bien, est un essai malheureusement beaucoup trop caricatural.
Alors j'ai été assez étonné, Julien Damon, de ne pas retrouver Marcel Gauchet justement dans votre liste des 100 penseurs de la société, d'autant que vous expliquez dans votre introduction que la sélection que vous avez faite assume relativement plus de conservatisme et surtout de libéralisme que de progressisme dans ces pages. Pourquoi ne pas avoir retenu Marcel Gauchet? Est-ce que c'est pour les raisons finalement qui viennent d'être évoquées, c'est-à-dire un penseur peut-être un peu trop français? Et puisque vous avez choisi de retenir notamment Raymond Aron, est-ce que vous attribueriez à Raymond Aron un universalisme qu'on ne peut pas attribuer justement à Marcel Gauchet?
Au-delà d'un universalisme, une certaine paternité à l'égard de Marcel Gauchet, puisqu'il en a été proche. Oui, sans penseur de la société, en effet, il faut faire des choix. Et j'ai même dit que je regrettais de ne pas avoir assez de place, mais il aurait fallu faire 101 penseurs pour pouvoir intégrer Marcel Gauchet. Mais je dois faire œuvre de contrition. C'est-à-dire que parmi les œuvres que l'on peut rassembler dans ce type d'ouvrage, il y en a certaines que l'on ne peut pas trop développer parce qu'on les connaît pas bien. Et il y a des pro-Gauchets, des anti-Gauchets. Moi, je ne connais pas assez bien pour pouvoir me prononcer assez radicalement sur l'œuvre. J'ai simplement un grand souvenir de Marcel Gauchet. C'est lorsqu'il crée sa revue Le Débat en 1980 avec Pierre Nora. Il crée Le Débat. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Alors quand je vois notre discussion autour de Marcel Gauchet à l'instant et tout ce qu'il suscite, je me dis qu'il a bien réussi. Et il a quand même une carrière intellectuelle majeure avec ce qu'il a pu faire sur l'esprit humain et aujourd'hui ses travaux autour du malheur français. Mais je suis pleinement d'accord pour dire que c'est d'abord un penseur franco-français.
Donc vous avez notamment choisi Raymond Aron parce que vous le connaissez, j'en déduis, suffisamment bien pour pouvoir en parler. En quoi il répondra à la question qu'on pose ce soir, c'est-à-dire en quoi il permet encore aujourd'hui de comprendre le monde dans lequel nous vivons? Est-ce que ce sont ses idées? Est-ce que c'est sa méthodes de pensée qui vous sont utiles.
C'est sa méthode de pensée et je la qualifierais de cristalline. Je pense que Raymond Aron a cette vertu d'écrire clairement sur les sujets les plus compliqués, d'avoir eu la capacité d'introduire, de développer plutôt la sociologie à l'université et pas la sociologie de bagarre générale, la sociologie avec vocation de rigueur, de scientificité, permettant par ses ouvrages majeurs qu'on eu entre les mains la plupart des jeunes sociologues, encore aujourd'hui. Ces étapes de la pensée sociologique sont un ouvrage absolument essentiel. Il a été un universitaire, il a également été un éditorialiste redouté, haï, et surtout, si je l'ai mis en avant, en ne choisissant pas son petit camarade, comme il s'appelait lui-même, donc son petit camarade Sartre, c'est parce que je pense qu'il a eu raison sur énormément de sujets. Et plutôt donc que d'avoir
phrase,
tort...
Voilà, voilà. Avoir tort avec Sartre tant ou avoir faire, raison avec Aron.
Qui a été reprise récemment, vous le savez, entre autres par le Premier ministre. Je pense qu'on doit aujourd'hui faire hommage à Raymond Aron pour, d'une part, le caractère clair et cristallin de sa pensée, mais surtout pour son apport pédagogique, encore utile aujourd'hui.
À propos de Raymond Aron, vous écrivez « Le lire aujourd'hui, c'est toujours emprunter la voie de la raison ». Est-ce que vous considérez les uns et les autres qu'un penseur, un intellectuel, un maître à penser, mais je ne sais pas d'ailleurs si cette expression vous convient, c'est quelqu'un qui doit vous aider à emprunter la voie de la raison, ou bien est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait peut-être un peu de déraison, un caractère finalement déraisonnable aussi dans les gens auquel on se réfère, Ludivine Montigny.
C'est très intéressant d'avoir ce débat sur Aron, à propos de raison, des raisons, émotions, affects. Parce que Raymond Aron est l'auteur notamment d'un ouvrage qui s'appelle « La Révolution introuvable », qui est un recueil de textes autour de 1968, hein, qu'il a rédigé au vif des événements. Et ce qui est passionnant dans ce livre, c'est que, bon, alors, il a une haine de 1968. Et d'ailleurs, de ce point de vue, on va retrouver des filiations, et notamment avec Marcel Gaucher, dont on parlait à l'instant.
Voilà, qu'on ne citera plus de la soirée.
Il a une haine de 1968, mais il l'assume. Ce qui est passionnant à l'époque, dans ce livre, c'est que, comme intellectuel, il assume des affects. Il assume d'avoir été d'abord ébranlé du point de vue émotionnel, ce qui est très rare à l'époque, et notamment dans le milieu intellectuel, que de justement concéder une place aux émotions. Mais alors, il va plus loin parce que là où ça devient compliqué d'introduire à ce point les émotions, c'est que du coup, il en arrive à dépolitiser 1968. Alors, juste un exemple dans cet ouvrage, il le dépolitise en disant en fait, cet événement, il ne s'explique que par des pathologies de nature psychologique. Et il dit, je vais citer des travaux de biologistes. Vous savez que les rats, quand ils sont enfermés dans des cages, les biologistes le montrent, eh bien, éprouvent une névrose de surpopulation. Eh bien, c'est comme ça, selon lui, qu'on peut expliquer 1968, et notamment la révolte des étudiants. C'est parce qu'ils étaient enfermés dans des espèces de ghettos, des cités universitaires, et donc à la manière de rats. Et donc, c'est intéressant parce qu'il va y avoir aussi toute une filiation à cette dépolitisation de l'événement au profit de l'émotion, du pathologique. Et d'ailleurs, Aron se réfère directement à Gustave Le Bon et à cette idée de psychologie des foules qu'il faudrait réactiver pour comprendre des événements aussi politiquement denses que 1968.
Brice Couturier, vous avez signé une grande traversée cet été pour France Culture consacrée à Raymond Aron. Raymond Aron, il compte encore aujourd'hui dans, si ce n'est les idées, mais en tout cas la façon de penser, la façon de concevoir des idées.
Il y a surtout une revanche d'Aron et des Aroniens, parce que pendant très longtemps, les Aroniens ont été considérés comme des ennemis de classe. Moi, dans mon parcours universitaire, on me disait qu'il fallait surtout pas lire Aron, c'était l'ennemi, vraiment.
On le relit aujourd'hui davantage que
oui,
Sartre.
Et oui, bien entendu, parce que ce que Aron a à nous dire sur la société, sur les thèses d'Aron qui peuvent nous permettre de comprendre l'évolution de la société sont autrement plus efficaces pour le comprendre que celle de Sartre. Sartre, c'est surtout un écrivain, c'est un homme de théâtre, c'est un romancier. Sa philosophie, mon Dieu, aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose. En tous les cas, sa philosophie, dans la mesure où elle nous permettrait de penser le social, à part la révolte, hein, la révolte contre le destin biologique ou le destin sociologique.
C'est déjà l'idée... pas si mal.
Oui, c'est pas mal. C'est une liberté brandie face à tous les déterminismes qui peuvent brider notre liberté. L'idée qu'on peut, comme Aron est un des meilleurs critiques de Sartre qu'on puisse trouver, Aron se moquait un peu de son petit camarade en disant il voudrait recommencer sa vie toutes les minutes ou toutes les heures, à zéro, comme s'il n'y avait rien derrière, parce que ça serait ça la liberté pour lui. Or, ben non, ça n'existe pas.
Sylvain Kahn.
Oui, moi ce que je voudrais dire sur Raymond Aron, enfin déjà Hervé Gardette, pour répondre à votre question, oui, on le relit, je le dis d'autant plus qu'enseignant l'espace mondial, Raymond Aron reste un espèce de grand classique pour comprendre les relations internationales, la société internationale, voire mondiale. Tout le monde sait qu'il a écrit Paix et guerre entre les nations, par exemple, ou qu'il a bien glosé sur l'équilibre de la terreur. Mais de mon point de vue, très subjectif, ce que je voudrais dire, c'est que il y a peu de, on va appeler ça, de grands penseurs ou en tout cas d'intellectuels qui comptent, dont la lecture soit aussi ennuyeuse et aussi soporifique. Et ça, c'est quand même quelque chose dont on peut parler en passant. Il y a un moment donné où il faut aussi que la lecture participe d'un vrai plaisir. C'est pas parce que c'est des intellectuels ou des maîtres à penser qu'il faut que ça soit austère, ennuyeux, sans style.
Mais est-ce qu'on a vraiment besoin, Sylvain Kahn, de lire, les maîtres à penser? C'est-à-dire, finalement, est-ce que l'attitude et ce qu'ils dégagent de leur posture d'intellectuel dans la société ne leur suffit pas à un certain nombre? C'est-à-dire, voilà.
En tous les cas, moi, je voudrais rebondir sur la question que vous posiez tout à l'heure à Ludivine Bantini. Oui, je pense que qu'on les appelle maîtres à penser ou simplement les auteurs qu'on aime beaucoup et qui nous inspirent, parce que moi c'est comme ça que j'ai envie de le dire, c'est bien quand c'est aussi des gens qui nous donnent, je ne sais pas moi, du plaisir, ou à un moment donné il y a quelque chose d'un peu sensoriel. Alors on parle de Raymond Aron, je pourrais dire que par exemple Pierre Asner, qui est pas de première jeunesse, mais qui est le fils spirituel de Raymond Aron, moi, quand je dis du Pierre Asner, ça me provoque des frissons, en tout cas, plus que Raymond Aron. Mmh. Et je pense que c'est hyper important et qu'il faut, il faut en parler, parce que si on veut que les gens lisent, si on veut faire partager nos goûts, il faut aussi qu'il y ait cet aspect-là.
Il y a du frisson dans la lecture de Raymond Aron, pour vous, Julien Lamont.
Alors, dans le chapitre Défense et illustration de l'œuvre de Raymond Aron, je voudrais dire deux choses. La première, à la fois en accord, en désaccord avec Sylvain Kahn, c'est que je suis absolument d'accord avec lui pour dire qu'il faut du plaisir à la lecture. Mais, évidemment, ce ne sont pas les mêmes personnages qui provoquent ce plaisir. Moi, j'ai bien davantage de plaisir à lire Aron et en apprécier la clarté, la précision, le souci de confrontation des points de vue, que dans un ensemble qui pour moi relève de la bouillie absolue, de l'école française de l'abscon, de philosophes absolument incompréhensibles.
Donc, vous les appelez les grands illisibles. Il y a Deleuze, Derrida, quoi. C'est la French Derrida,
j'ai strictement jamais rien compris. Alors, ce sont les illisibles de mon point de vue, mais Aron me fait frissonner.
Vous aimez la pensée cristalline, vous l'avez
j'aime
dit.
J'aime la pensée cristalline. Ouais.
Non, attendez, l'opium des intellectuels, c'est surtout tout sauf ennuyeux. Enfin, il y a des textes d'Aron qui sont
ennuyeux. Mais vous connaissez les mille pages. Les mille pages des mémoires de Aron, certes on s'endort au bout d'une centaine, mais si on les lit en plusieurs soirées, c'est bien. Non, ma défense et illustration de Aron par rapport à Sartre. Là, aujourd'hui, nous sommes autour de ces deux tomes sur la vie intellectuelle. Vous prenez l'index, Aron a 3 fois à 4 fois moins de mentions que Sartre. Je trouve ça dommage.
Alors, et cette émission est forcément frustrante parce que chacun des auteurs cités mériterait qu'on lui consacre une émission en entier. Mais c'est un petit peu le principe ce soir que de faire un petit peu un panorama des penseurs que vous avez sélectionnés les uns et les autres. On en a cité simplement deux pour l'instant. Je voudrais en citer une troisième, Ludivine Bantini, c'est Christine Delphi, qui est peut-être d'ailleurs quelqu'un qu'on lit moins, mais dont l'action peut être inspirante et qui pose aussi la question finalement de la place des intellectuels dans la société. Alors, il faut peut-être d'abord dire, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien Christine Delphi, qui est-elle et pourquoi vous l'avez retenue?
Alors, je pense qu'on la lit beaucoup. Dans la jeune génération, c'est même assez impressionnant de voir à quel point il y a une grande acuité de l'intelligence et de la pensée autour de l'œuvre de Christine Delphi, que Christine Delphi continue à écrire beaucoup, que c'est en effet une intellectuelle engagée, même si le qualificatif de maître à penser, maîtresse à penser, je pense qu'elle elle le récuserait, parce qu'elle fait partie de ces penseuses, penseurs qui, justement, prônent une démarche extrêmement collective. Christine Delphi est une penseuse du féminisme, mais pas uniquement, disons que c'est une penseuse des formes d'oppression, des formes de domination et des manières de lutter contre ces oppressions. C'est une féministe matérialiste, elle joue un rôle absolument majeur dans cette conception du féminisme comme matérialiste, c'est-à-dire comme une façon de considérer vraiment des rapports sociaux, les conditions matérielles de l'existence. Elle a été à l'origine notamment d'une réflexion sur le patriarcat, hein, comme un mode de production singulier, qui, bon, dans le débat avec les marxistes, a été fondamental, hein, pour expliquer que le patriarcat, c'est un mode de production qui est contemporain du capitalisme, qui lui est à la fois associé et distinct. Et donc, elle a aussi beaucoup pensé cette idée d'un cadre familial qui pouvait être en soi oppressif.
Du coup, est-ce que vous diriez, Ludivine Bartini, qu'on ne peut pas comprendre le monde aujourd'hui sans cette grille de lecture du patriarcat, de la domination masculine?
Mais oui, parce que ça va. La pensée de Christine Delphi est déjà très profonde à cet égard, mais elle va beaucoup plus loin. Par exemple, elle dit que le féminisme ne peut pas se réduire à un corporatisme. C'est-à-dire que le féminisme doit être une pensée de toutes les oppressions. Sinon, il devient étriqué, il ne peut plus être considéré comme un mouvement de libération. Et ça, bon, c'est une référence aussi au clivage, hein, qui traverse les féminismes et bien au-delà des féministes. Par exemple, Christine Delphi est une intellectuelle agissante, notamment sur le terrain du politique, en ce qui concerne la lutte contre l'islamophobie, des prises de position extrêmement fermes.
Elle s'est opposée, par exemple, à la loi sur le voile il y a une dizaine d'années.
Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appellerait dans les sciences sociales aujourd'hui une forme d'intersectionnalité. C'est-à-dire, ça veut dire une façon de prendre en considération toutes les formes d'oppression et de domination, mais aussi de résistance, de rébellion contre ces oppressions.
Je ne vais pas forcément vous demander ce que vous pensez de Christine Delphi, les uns et les autres, mais en tout cas, de cette nécessité peut-être de penser le monde, notamment à travers le prisme de la question de la domination masculine et donc de cette pensée féministe, Sylvain Kahn.
Moi, je pense que c'est hyper important. J'ai un des livres, je parlais tout à l'heure du plaisir de la lecture, je pourrais dire qu'un des livres où j'ai pris énormément de plaisir et qui a été comme une révélation, c'est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et ça me paraît effectivement. Enfin, je ne peux que constater dans des tas d'endroits et dans des tas de situations. On faisait tout à l'heure allusion, celle du Divine Bantini qu'il faisait à mai 68, au fait que les jeunes femmes, disons de la génération qui ont entre 15 et 30 ou 35 ans, ont à la fois, enfin, peuvent avoir le sentiment qu'un certain nombre de choses sont acquises. Hein, et donc il faut rappeler sans arrêt, en tant que prof ou dans les cafés, etc., que non, je veux dire, ça n'a pas toujours été comme ça, je ne sais pas, la contraception par exemple, hein, ou la possibilité de s'habiller comme on veut, dont on voit qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Et en même temps, je suis frappé par le fait qu'il y a des tas d'endroits dans les sociétés européennes et américaines, pour prendre les sociétés qui ont été, on va dire, un peu les vecteurs du féminisme, ou en tous les cas des gender studies, par le fait qu'il y a des tas d'endroits où ça recule. Prenons en France l'exemple du planning familial, dont on sait très bien qu'il a des difficultés. Et donc je pense effectivement qu'il y a une actualité très importante de la pensée féministe, ou en tout cas des études de genre, et en géographie en particulier, la question de l'espace et du territoire est un thème dans lequel le prisme des études de genre, le prisme effectivement de la domination genrée, qui bien souvent explique les dominations spatiales. Hein. Yves Rébaud, par exemple, géographe bordelais, a très très bien montré comment l'espace urbain est, pour le dire rapidement, j'avais fait une émission là-dessus, machiste. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'endroits de l'espace urbain qui sont conçus par les hommes et appropriés par les hommes, et personne ne s'en rend compte. Donc oui, je connais pas Madame Delphi en particulier, mais je connais d'autres auteurs féministes, comme Claire Hancock, par exemple, en géographie, et je pense que c'est hyper important et qu'il faut le dire et le redire.
Julien Damon, vous, dans votre livre, vous dites que, les études de genre, je vais y arriver, ça fait partie des choses que vous avez un petit peu de mal à comprendre, donc qui ne se retrouvent pas dans votre sélection.
Oui, c'est pas ma marque préférée, comme on dit dans les tontons flingueurs en parlant de char d'assaut. Quand je dis que je ne comprends pas très bien, c'est par exemple le terme qui a été employé tout à l'heure d'intersectionnalité dans les sciences sociales. Je l'ai entendu, je l'ai lu, j'ai cherché à comprendre, je ne comprends pas. Madame Butler ou Madame Delphi ont des phrases, de mon point de vue, absolument incompréhensibles, d'une toute autre qualité que la cristalline pensée d'auteur qui me semble plus important. Ceci dit, je pense que c'est des personnages importants qui remettent en avant des sujets majeurs d'inégalité, de domination. Maintenant, avec avec un engagement politique dont on peut dire un petit mot. Avant d'être des penseurs, ce sont d'abord des acteurs de leur révolution. Donc membres des Gouines Rouges, c'est sympathique comme mouvement maoïste dans les années 70, soutien du Parti des Indigènes de la République. C'est des positions extrêmement radicales qui ne sont pas fondées, de mon point de vue, sur des travaux, mais fondées sur des convictions.
Alors on a compris chez certains d'entre vous que la clarté du propos était un critère important pour justement lire ou relire certains penseurs. Brice Couturier, est-ce que c'est cette clarté, notamment, voire cette clairvoyance qui vous a fait choisir Alexis de Tocqueville ?
Exactement. Parce que c'est un esprit qui, en plein milieu du 19e siècle, est à la fois capable de vous prédire qu'il va y avoir un affrontement entre les deux principales puissances de l'avenir qui seront la Russie et les États-Unis d'Amérique à l'époque où ces deux pays sont dans une arriération totale. C'est un esprit qui est capable de saisir, avant même sa création, les limites de l'État-providence en vous expliquant que c'est quelqu'un, que c'est une structure, une institution qui voudra nous garder en enfance perpétuelle et nous soulager jusqu'au besoin, à la peine de vivre. C'est un esprit qui condamne l'esclavage avec une extrême violence, alors que c'est quelqu'un de très modeste, de très modéré dans ses propos. Mais quand il parle de l'esclavage dans le sud des États-Unis, là, il devient vraiment violent et il prédit la guerre civile qui va avoir lieu quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, entre les États du Nord et les États du Sud confédérés. Bref, un esprit qui est capable, en milieu du 19e siècle, de prédire l'avenir avec une telle précision, c'est donc quelqu'un qui entre les mains une méthode de décryptage de la société de son temps formidable, parce que on aimerait bien, nous, aujourd'hui, avoir un esprit qui pourra nous dire ce qui se passera dans 50 ans. Par ailleurs, quand on prend les différents textes de Tocqueville, je me suis amusé à le faire, on peut en sortir un certain nombre de lois d'ordre parfaitement général qui sont d'une utilité permanente et là, pour le coup, véritablement universelle. Par ailleurs, c'est certainement un des plus grands libéraux français, c'est le chaînon manquant, disons, entre Montesquieu et Raymond Aron.
Un petit mot de Ludivine Bantini sur Tocqueville.
Oui, non, c'est très intéressant de souligner que c'est l'incarnation même du libéralisme, je pense. Bon, moi, je ne suis pas philosophe, j'ai lu Tocqueville, mais en historienne. Et si on parle de l'avenir prévu par Tocqueville, on peut aussi parler du présent tel qu'il le vit et de ses contradictions, hein, des contradictions entre sa pratique et sa pensée, puisque le penseur du libéralisme et de la condamnation de l'esclavage, parce que ça ne concerne pas la France, et aussi celui qui va tout à fait valider et théoriser la domination française coloniale en Algérie et justifier les razzias et les massacres en Algérie. Et c'est aussi celui qui, en tant que député, va voter des lois qui sont liberticides à l'époque, c'est-à-dire qui vont, par exemple, restreindre la liberté de la presse, qui vont restreindre les clubs, qui vont aussi... Tocqueville va tout à fait approuver la répression du mouvement ouvrier de juin 1848, à tel point d'ailleurs que même le général Cavaignac, qui était ministre de premier ministre de l'époque, n'a pas voulu de Tocqueville tellement il lui paraissait trop à droite et pas assez convaincu des libertés que pouvait engendrer la République, deuxième du nom, en 1848.
La pendule tourne évidemment très vite. Brice Couturier nous disait, finalement, j'aimerais bien aujourd'hui avoir des penseurs qui pourraient nous dire ce à quoi va ressembler le monde de demain, mais peut-être faut-il d'abord qu'ils nous expliquent les ressorts du monde d'aujourd'hui. Évidemment, Tocqueville, son grand ouvrage, enfin en tout cas le plus connu sans doute, c'est De la démocratie en Amérique et de la démocratie...
Moi, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit c'est l'ancien régime de la Révolution.
Ah, bah,
moi
aussi. Quand même, je pense que pour le grand public, quand même, la démocratie en Amérique... Non, mais c'était aussi pour faire un petit lien, voyez, un petit peu artificiel avec la démocratie en Europe et pour vous permettre, oui, Sylvain Kahn, de parler de Jean-Marc Ferry.
De Jean-Marc Ferry. Et même, puisqu'il reste très peu de temps, je peux même dire pourquoi Anna Arendt nous aide à comprendre le futur, y compris des Européens. Moi j'ai choisi Jean-Marc Ferry et Anna Arendt. Alors, pour dire deux mots sur Jean-Marc Ferry, enfin, c'est pas sur Jean-Marc Ferry que je veux dire deux mots. Je voudrais dire deux mots sur...
C'est un philosophe, hein, il est titulaire de la chaire Europe à l'Université de Nantes.
Voilà, c'est ça, voilà.
Pour déjà donné son...
Bon, et puis en plus, à une époque, Jean-Marc Ferry, il a d'abord été connu pour ses travaux, effectivement, de philosophie politique sur le revenu universel, hein, dont on reparle en ce moment politiquement. Mais effectivement, il fait partie, sauf erreur de ma part, parce que je suis comme Julien Damon, j'ai pas du tout la prétention à l'exhaustivité, il fait partie, sauf erreur de ma part, des rares, pour le coup, penseurs, qu'on cherchait à, ou qui cherche toujours à penser la construction européenne cette espèce d'OPNI, comme l'a dit un jour Jacques Delors, cet objet politique non identifié. Bon, donc moi un jour, quand en géographe, je suis tombé sur Jean-Marc Ferry, j'étais très très content. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que quelqu'un avait enfin réussi à dire de manière très claire et très concise des choses que j'avais moi du mal à me formuler, mais dont j'avais, on va dire, l'intuition. Donc, l'importance de Ferry pour moi, pour le dire en un mot, enfin, s'il faut choisir un concept ou une idée, c'est la manière dont il revisite complètement le concept de souveraineté. Moi, j'avais bien cette intuition que, s'agissant de la construction européenne, on avait mis fin à cette espèce de vieux machin qu'on nous enseigne depuis 5 siècles, à partir de Jean Bodin, qui est que la souveraineté est une et indivisible et que la souveraineté ne se divise pas. Et évidemment, dès qu'on s'intéresse à la construction européenne, on comprend que ça ne marche pas. Bon, et Jean-Marc Ferry, il met des mots là-dessus, hein, c'est-à-dire il montre comment, effectivement, on a une souveraineté populaire qui reste divisée, puisque les souverainetés proviennent d'autant de peuples qu'il y a d'États membres et d'États-nations de l'Union européenne, mais qu'en revanche, on a un exercice de la souveraineté qui, lui, est partagé à la fois par ses États membres qui la mutualisent, et en même temps par l'Union européenne. Et ce qui est très intéressant du point de vue territorial, c'est qu'en vérité, depuis qu'on a l'Union européenne, ça veut dire que sur chaque portion de territoire européen, il y a, on pourrait dire, différentes échelles ou plusieurs modalités d'exercice de la souveraineté, comme s'il y avait plusieurs juridictions.
Et en quoi vous y voyez une cohérence avec votre autre choix, qui est celui d'Hannah Arendt ?
Pour moi, la cohérence est dans le fait que, sauf erreur de ma part, et là j'interroge tous mes estimés collègues et vous, Hervé Gardette, il me semble que c'est grâce à Hannah Arendt qu'on peut, par exemple, penser aujourd'hui non seulement le concept, mais la réalité des réfugiés. C'est Hannah Arendt qui, sauf erreur de ma part, invente, peut-être pas le concept, mais en tout cas la pensée moderne de l'apatride. Et ce qu'il y a de commun pour moi ou de cohérent avec Jean-Marc Ferry, c'est que elle a pointé du doigt et finalement très tôt, dès la Seconde Guerre mondiale, la manière dont l'État-nation et le nationalisme pouvaient mener à la barbarie.
Alors voilà. Hannah Arendt, ça a été une intellectuelle controversée en son temps. On a l'impression qu'aujourd'hui...
Ça commence, c'est reparti.
Alors, je ne sais pas justement. En tout cas, c'est sans doute une des intellectuelles qui est la plus largement... Enfin, une des plus largement citées. Elle figure aussi dans votre sélection, Julien Damon. Mais en tout cas, voilà, est-ce que ça peut faire partie de ces penseurs qui pourraient, non pas vous réconcilier, puisque vous n'êtes pas fâché, mais enfin, en tout cas, vous réunir tous les quatre, Julien Damon, Brice Couturier, Olivier Dumont.
Si on doit voter, moi je vote pour, bien sûr. Je pense que c'est un auteur absolument fondamental pour comprendre ce qu'elle a baptisé la condition de l'homme moderne.
Oui, mais vous avez vu la bataille qui est en train de se livrer autour du livre de Faye, où on l'accuse, à travers Heidegger, d'être une espèce de crypto-nazi. Enfin, c'est effrayant le portrait qu'on est en train de faire d'elle.
Bon, il y a peut-être un autre intellectuel, cela dit, qui regroupe, en tout cas qui est énormément cité aujourd'hui. C'est non pas Walter, pardonnez-moi Boris pour tout à l'heure, mais Walter Benjamin. Que vous avez choisi, Ludivine Bantini.
Oui, alors, puisqu'on parle on a parlé tout à l'heure de plaisir, là, il y a du plaisir à lire Benjamin, qui est un philosophe, mais qui est aussi un critique d'art, un critique littéraire, qui a été le traducteur de Proust, celui qui a vraiment découvert et redécouvert Baudelaire, etc. Moi, ce que la manière dont je l'apprécie, mais ça va très loin pour moi comme historienne, c'est une pensée du temps qui est une pensée absolument non mécanique, non linéaire. C'est-à-dire que Benjamin, c'est un philosophe marxiste, mais qui est en même temps messianique au sens où il laisse le temps ouvert au possible, ouvert à l'inconnu, ouvert au mystère aussi. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir changer alors radicalement, hein, en effet, la société, hein, en marxiste. C'est un penseur révolutionnaire, mais qui, pour l'époque, hein, dans les années 1930, il est mort, il s'est suicidé à Portbou dans les conditions désastreuses qu'on sait, fuyant le nazisme en 1940. Et dans ces années 30 où il est sans cesse persécuté, c'est un penseur qui va vraiment réfléchir au stalinisme, hein, qui va s'opposer frontalement au stalinisme, à cette espèce de mécanique, cette idée qu'il y aurait un progrès qui nécessairement conduirait à l'abolition du capitalisme qui suffirait d'attendre, etc. Donc vraiment un penseur de l'action. Et c'est un penseur des étincelles de temps, c'est-à-dire une manière de happer des moments où le passé rencontre le présent et où il s'agit de préserver le passé sans jamais vouloir le commémorer, c'est-à-dire finalement l'embaumer, le momifier ou l'enterrer.
Quel serait le livre qu'il faudrait lire pour commencer, pour rentrer dans l'œuvre de Benjamin, selon vous?
Je dirais le livre des passages, hein, parce que c'est une magnifique promenade dans un Paris où Benjamin s'intéresse aux choses minuscules, hein, contre la valeur marchande, hein, contre la valeur d'échange des marchandises. Il s'intéresse aux petites choses, des petites gens et de la révolte, profondément.
Julien Damon, qui depuis le début de l'émission prend des notes et coche des cases, s'est rendu compte qu'il y avait son deuxième auteur qu'on n'avait pas abordé. Comme vous avez l'esprit de synthèse, il vous reste 20 secondes pour nous parler de Michael Sandel.
Très bien. Mais d'abord, je pense qu'il n'y a pas que la France. Alors, on a le cas avec Walter Benjamin, mais globalement, on est souvent très franco-français dans nos affaires. Michael Sandel est un des plus grands professeurs de philosophie politique, exerçant aujourd'hui à Harvard et permettant, sans proposer des choix radicaux, de se faire des idées sur les sujets moraux les plus compliqués. Qui vont de l'avortement à la génomique, en passant par la gestion de l'argent. Un auteur absolument formidable, clair et sympathique.
Voilà, beaucoup de conseils de lecture donc ce soir. Marcel Gauchet, Christine Delphi, Michael Sandel, Jean-Michel Ferry, Anna Arendt, Anna Arendt, Raymond Aron.
Fin de semaine. Hein.
Walter Benjamin et Tocqueville, merci à tous les quatre en tout cas d'avoir participé à cette discussion. Le prochain rendez-vous du club, ce sera quand? Vendredi prochain bien entendu. Le prochain rendez-vous avec Du Grain à Moudre, c'est lundi à 18h20. Nous reviendrons sur le projet de rachat de Monsanto par Bayer. Ce projet menace-t-il la diversité agricole? Ce sera la question que nous poserons à partir de 18h20.